OK, on va aller rejoindre maintenant Edith. Elle s'appelle Edith Lemay. Elle signe un blog qui s'appelle « Le monde plein leurs yeux ». Je vais vous dire dans un instant pourquoi elle l'appelle comme ça. Mais d'abord, on va vous parler de la maman de Edith. Bonjour, Edith Lemay.
Bonjour.
Dites-nous ce que votre maman a fait de si exceptionnel à vos yeux, dites-moi.
Hein? Et ma maman, déjà, elle m'a vaccinée. Alors, pour moi, c'est quelque chose déjà de gros. Mais ma mère était retraitée là, depuis plusieurs années comme infirmière. Puis en janvier, elle a décidé qu'elle allait aller prêter main forte puis qu'elle allait retourner sur aider là, pour la COVID. Donc, elle est allée vacciner.
Oui, puis c'est ça. Votre mère, quoi, 70 ans, c'est ça? Oui,
70 ans.
Et elle l'a fait... Elle l'a pas fait pour l'argent, là. Elle l'a pas fait, je veux dire, elle l'a fait pour la cause, là.
Mais vraiment pour la cause. C'est vraiment ma mère qui croyait que c'était son devoir d'aller aider. Elle était à la retraite, elle était bien à la retraite. Elle a pas fait pour, par plaisir non plus d'aller vacciner. Je pense pas que ça soit si palpitant d'aller vacciner à la chaîne toute la journée, là, mais elle est retournée là, pas, par sens du devoir, vraiment.
Et c'est arrivé quand? Quand est-ce qu'elle vous a vacciné?
Lundi, juste après la fête des mères. Donc, entre la fête des mères et la Journée internationale des infirmières. Donc, je trouvais que c'était un bel hommage pour ma maman.
Alors, dites-moi comment ça s'est passé. D'abord, vous saviez, vous avez choisi l'endroit, vous l'avez fait oui, volontairement. Vous souhaitiez que ce soit elle qui vous vaccine, j'imagine.
Oui. Bien, on demeure dans la même ville, puis je savais dans quel centre elle vaccinait. Donc, c'est là que je me suis inscrite. Puis, ça a tombé que c'était une de ses journées de travail. Donc, je me suis arrangée. J'ai demandé au répartiteur d'être à sa table. Donc, c'est elle qui m'a vaccinée.
OK, vous l'avez demandé. Ah, c'est chouette. Donc, vous avez grandi avec une maman infirmière, vous?
Oui, une maman qui a un très grand sens du devoir d'aider les autres. Puis, d'ailleurs, elle tenait à dire là, qu'elle n'était pas si spéciale que ça, qu'il y avait vraiment plein d'autres infirmières, plein de gens qui donnaient du temps et qui contribuaient à cet effort-là. Là. Donc, c'est une grosse équipe.
Oui, parce qu'on a demandé, évidemment, à lui parler, votre mère, puis non. Elle voulait pas se mettre, je pense qu'elle voulait pas se mettre à l'avant-plan.
C'est exactement ça. Mais aussi, elle travaillait, là, elle est en train de vacciner en ce moment, mais c'est aussi, c'est un effort d'équipe.
Bon. Et alors, vous, je ne sais pas si les gens ont lu le papier « L'urgence de voir la beauté du monde » signé par Catherine Hanfield il y a un petit peu plus d'un an de ça, mais il y avait eu une espèce de portrait qui avait été fait de votre famille. Donc, vous et votre conjoint Sébastien avez eu 4 enfants. Et racontez-nous un petit peu l'aventure que vous aviez prévue puis qui a été un petit peu malmenée à cause de la COVID, justement.
Ben c'est ça. Ben nos enfants, il y a 3 de nos enfants qui ont une condition à la rétine, donc c'est une maladie dégénérative qui fait qu'ils vont perdre la vue. Donc nous, tu sais, dans l'idée de faire quelque chose, et puis c'est une maladie où il y a aucun traitement, on peut vraiment rien faire. Donc on s'est dit, ben on va profiter du temps que leur vision est bonne pour remplir leur mémoire visuelle, pour emmagasiner le plus d'images possible. Alors, on avait planifié l'année dernière de partir pour un an en voyage avec les 4 enfants autour du monde.
Et évidemment, vous avez été obligé de remettre ça.
Oui, on devait partir en juillet l'année dernière. Fait que là, depuis ce temps-là, ben, on repoussait de 3 mois, après ça de 6 mois, puis là, dans 6 mois, ça devrait être correct. Puis, c'est ça. Le dernier report, c'était cet été, puis encore là, on ne partira pas cet été.
Là, vous êtes rendu où dans votre échéancier?
Bien, là, on croise les doigts là, avec la vaccination. On espère pouvoir partir en janvier 2022, en fait.
Janvier 2022. Puis c'est un voyage d'un an, c'est ça?
Oui.
Puis c'est vraiment le tour du monde, là. Vous prévoyez faire combien de pays?
Bien, honnêtement, l'itinéraire reste vraiment déterminé. Là. On avait un bel itinéraire de prévu, mais en changeant de saison de départ, il faut tout revoir l'itinéraire. C'est sûr qu'avec la COVID, ben, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'incertitudes. On va vraiment planifier au fur et à mesure parce qu'on ne sait pas quelles vont être les conditions d'ouverture des pays. Donc, on va vraiment y aller.
Les conditions de vaccination aussi. T'as certains pays où les populations ne seront pas vaccinées ou ne seront pas complètement vaccinées. Donc, vous allez devoir faire attention pour ne pas vous exposer à des risques inutiles. Là.
Exactement. Fait que ça va être les conditions sanitaires, les conditions d'ouverture des frontières. Il y a des frontières qui demeurent fermées. Puis il va peut-être aussi avoir des conditions économiques. On sait pas trop dans quel monde on va voyager à ce moment-là. On va vraiment improviser.
Je trouve ça très beau quand vous dites on veut remplir leur mémoire visuelle d'images. Vous avez combien de temps avant que vos enfants commencent à perdre la vue?
Bien, on ne sait pas. C'est déjà un peu commencé. Ça affecte pas la vision, mais la rétine a déjà commencé à se détériorer. Du moins, on le sait pour ma plus vieille. Pour les plus jeunes, ils sont comme un petit peu trop jeunes pour qu'on puisse bien l'évaluer. Mais c'est quelque chose qui est vraiment incertain. Ils disent, en général, ça va être à la perte de vue complète. La cécité va arriver à la mi-vie, donc vers 30, 40 ans. Mais c'est très variable, fait qu'on peut pas prévoir.
Votre plus vieille, elle a quoi, 10 ans maintenant?
Oui, elle a 10 ans.
Et vous nous dites, ça a commencé, là. Elle a commencé à perdre un petit peu de sa vue, c'est ça?
Oui. Bien, les trois ont déjà une perte de vision la nuit. Fait que le soir, là, quand la luminosité est très faible, déjà, ils perdent la vision, ils deviennent aveugles très rapidement. Pour la vision de jour, tu sais, c'est la vision, on la perd en périphérie. Donc, c'est tranquillement le champ visuel qui se rétrécit. Puis vers la fin, c'est comme de voir à travers une paille. Donc, il reste un tout petit champ de vision. Puis des fois, ça va complètement s'effacer.
Comment ils vivent ça, les enfants, le report du voyage?
Juste, c'est sûr qu'avec la pandémie puis tous les changements, ils ont moins pensé à ça. Les enfants, c'est très dans l'instant présent.
Oui.
Mais dernièrement, ils ont commencé à en parler. Parce qu'ils ont hâte de partir à l'aventure. Ils ont hâte de partir. Je pense qu'ils sont un petit peu tannés d'être à la maison puis de rien faire. Là. Donc, ils commencent à en parler plus.
Est-ce qu'il y a un traitement qui pourrait ralentir la progression de la maladie ou qui pourrait même l'arrêter? Il doit y avoir des recherches, j'imagine, qui se font présentement. En d'autres mots, est-ce qu'il y a un espoir que vos enfants ne perdent pas la vue?
Il y a les thérapies géniques qui, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de recherches, ça avance très vite. Sauf que la thérapie génique, il y en a un médicament qui traite, parce que la rétinite pigmentaire peut être causée par plusieurs gènes, mais des centaines de gènes. Donc, le médicament va être développé pour un gène en particulier. Donc, il y a un médicament qui a été développé pour un gène, qui n'est pas le gène qui est défectueux chez mes enfants. Donc, puis ça a l'air de fonctionner. Donc là, c'est de croiser les doigts pour qu'une compagnie pharmaceutique s'intéresse à ce gène-là puis décide de développer le traitement. Puis, tu sais, le traitement coûte $1 million par... c'est $500,000 par œil en ce moment aux États-Unis. Fait que là, même s'ils venaient au Canada, ce serait de voir s'il y aurait possibilité de que ça soit payé. Là. Fait qu'il y a beaucoup de si encore. Là.
Mais il y a quand même un petit espoir. C'est ce que je retiens, Edith Lemay. Il y a quand même un petit espoir.
Oui, mais je ne veux pas m'accrocher à cet espoir-là.
Non, c'est ça.
Parce que je veux pas que ça m'empêche. Cet espoir-là m'empêche d'accepter la réalité qui s'en vient. T'sais, je ne veux pas m'accrocher à ça. Moi, je veux m'adapter à la situation qu'on sait en ce moment. C'est sûr qu'on va être super content s'il y a un traitement, mais il y a aussi beaucoup de chances que ça n'arrive pas, donc il ne faut pas miser là-dessus trop.
Ben, en tout cas, Edith, je vous souhaite à vous, à votre conjoint, à vos quatre enfants de réaliser votre rêve, votre projet. J'espère que vous allez pouvoir le faire au début de l'année 2022. Et puis pour la suite des choses, ben, espérons que la science vienne à votre secours. Mais je pense que vous avez le bon état d'esprit. Vous, d'une certaine manière, vous acceptez... le mauvais sort. Et si jamais vous réussissez à le repousser, ben ce sera une agréable surprise.
Exactement. Exactement.
Bonne chance.
C'est des beaux défis. Merci.
Puis je vous sens lumineuse dans votre voix. Je pense que vous êtes une femme quand même qui continue de regarder la vie d'une manière positive. Je pense que vous, malgré ce qui vous arrive, je pense que la vie reste belle pour vous. Puis vous essayez, j'imagine, de partager cette vision de la beauté de la vie à vos enfants.
Oui, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. On a des beaux exemples. Ma mère, qui est très positive. Alors, c'est on ça. Essaie de transmettre ça, nous.
La boucle est bouclée. Vous saluerez votre mère, Edith Lemay. Merci infiniment.
Merci à vous.
À la prochaine. On s'en va à la pause. Au retour, on va parler à deux journalistes sportifs. Il y en a un qui va nous résumer la dernière série Canadien-Toronto. Vous allez voir, ça remonte. Et il y en a un autre qui va nous donner le plan de match pour battre les Maple Leafs.